Nous commençons ce soir avec Jean-Marie Laine, un module thématique qui est consacré à la chimie, science des transformations. Et Jean-Marie Laine va nous parler de chimie et création, du moléculaire au supramoléculaire. Alors bien qu'il ne soit pas utile de le présenter, je le présente quand même, c'est comme ça que nous faisons ici. Jean-Marie Laine est né en 1939, il est docteur en sciences de l'Université de Strasbourg en 1963. Il a commencé sa carrière au CNRS de 60 à 66. Il a été assistant associé professeur de chimie à l'Université Louis Pasteur de Strasbourg de 66 au 79. Et depuis octobre 79, il est professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de chimie des interactions moléculaires. Il a, je ne vous donnerai pas la liste entière, mais il a occupé de très nombreux postes de professeurs associés dans des universités étrangères prestigieuses, que ce soit Harvard, Zurich, Cambridge, Barcelone, Francfort, Karlsruhe, Oxford, etc., etc. Il est actuellement directeur et professeur au Collège de France, directeur du laboratoire de chimie supramoléculaire à l'Université Louis Pasteur Strasbourg et du laboratoire de chimie des interactions moléculaires au Collège de France. Il est l'auteur de très nombreuses publications, plus de 600 dans des revues savantes et techniques, donc. Et j'ajouterai à peine qu'il est aussi prix Nobel de chimie 1987. Il nous a fait l'honneur de venir nous parler ce soir. Je l'en remercie.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Monsieur Michaud, d'abord, merci de m'avoir invité. Quand j'ai eu votre lettre, j'avais d'abord une réaction assez mitigée. L'an 2000, supramillénarisme, alors pas du tout. Et pour moi, l'an 2000, c'est une année comme une autre, dépend quand on commence à compter. Donc, je n'étais pas très attiré par ça. Mais quand j'ai vu qu'il s'agissait d'organiser une conférence par jour, scientifique, par jour, pendant toute une année, je trouvais que ce travail d'Hercule valait qu'on y participe. Merci de l'avoir organisé. Je crois que tous les scientifiques doivent vous en être reconnaissants. Accueil encore plus mitigé quand j'ai vu que c'était en plein mois d'août qu'on me faisait parler. Je m'étais dit qui va avoir l'audace d'entendre causer de chimie et l'abnégation de sacrifier une fin de journée, mais il paraît qu'il pleut dehors, donc c'est un peu moins d'abnégation. Je vais donc vous entretenir de chimie et de vous parler un peu de thèmes qui conduisent aussi aux nôtres, évidemment. Comme c'est un public extrêmement varié, c'est intéressant de savoir où tirer. Le mieux, ce serait de faire comme la chasse au canard, enfin, beaucoup de plomb, on arrive éventuellement à abattre l'objet. Mais là, je vais essayer de mélanger un peu les genres et puis peut-être que chacun y trouvera un peu quelque chose. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est la chimie ? C'est une science, ça ne semble pas évident à tout le monde, mais c'est une science. D'une part, de la composition de la matière, comment c'est fait, de quoi c'est composé. De la structure de la matière, comment tous ces objets sont agencés, arrangés. Et de la transformation de la matière, qui est le thème de ce bloc de conférences. Comment est-ce qu'on transforme un truc dans un autre ? Alors ça, c'est valable pas seulement pour la matière non vivante, c'est aussi valable pour la matière vivante. Peut-être que ça, dans la discussion, ça pourra revenir. Et je voudrais donc essayer de vous décrire d'abord une petite histoire de la chimie, et puis ensuite donner un certain nombre d'exemples de ce que d'autres ont fait, que nous avons fait, et peut-être d'ouvrir quelques perspectives. Tout d'abord, où est-ce que ça a commencé ? Vous pouvez lire au moins « The Big Bang », l'explosion originelle. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, l'explosion originelle, il y a eu beaucoup de chaleur, la matière s'est formée, et très rapidement, l'univers s'est refroidi. Au début, les lois de la physique régnaient, mais la chimie a commencé lorsque l'ensemble est devenu assez froid, puisqu'au début, les températures qu'on pouvait voir sont de l'ordre de 10 puissance 32 degrés, 10 puissance 27, après 10 puissance moins 34 secondes, etc., etc. Quand on arrive vers 200 000 ans, bon, les atomes se forment. Quand on arrive vers 1 000 millions, c'est-à-dire 1 milliard d'années, on est à 18 degrés, les molécules se forment. Donc, de l'énergie pure, on arrive aux particules, les particules forment des atomes, les atomes forment des molécules, les molécules se mettent à s'associer, et d'une façon complexe qu'on ne connaît pas du tout pour l'instant ou qu'on essaie parfois de reconstruire. Ces molécules se mettent ensemble, forment des agrégats de plus en plus grands que nous reverrons, qui s'appellent supramoléculaires, et à un moment donné, des membranes se forment, des cellules se définissent et la vie en sort. D'ailleurs, voilà, pour l'instant, l'état actuel de l'évolution, mais sans doute pas le final. Quand on me dit que c'est la fin ici, je crois qu'on ne peut pas y croire. Nous ne sommes pas, nous, la fin de l'évolution. Il y aura autre chose. Quand ? Je ne sais pas, mais il y aura autre chose. C'est intéressant d'en discuter, peut-être. Alors, quelles sont les caractéristiques principales de cette évolution ? Pour faire un raccourci extrêmement audacieux, l'évolution de l'univers est allée du simple au complexe, des particules à la pensée, vous apprécierez l'audace, et qu'on est allé vers une augmentation d'informations. La matière était condensée, au début elle se condense, elle s'organise, elle donne lieu à l'évolution naturelle, et une fois que l'être humain apparaît, qui sait prendre en charge éventuellement l'évolution de la matière et sa propre évolution, c'est l'action de l'homme, et notamment sa façon d'agir sur la matière par l'intermédiaire d'une de ses sciences que l'être humain a édifiée, une d'entre elles qui est simplement appelée chimie parce qu'il faut bien catégoriser les choses, mais qui pour ça est une science. Si on reconstruit ça sur un graphique, évidemment cette espèce de droite n'a aucun sens, ça peut être censé probablement une espèce de courbe. Si l'on porte l'information de la complexité en fonction du temps, on passera de la matière divisée à la matière condensée, puis ça s'organise, cela devient vivant et à un moment donné pensant. En fait, sans doute, la distance en complexité entre vivant et pensant est beaucoup plus grande qu'entre organisé et vivant. Il est beaucoup plus facile d'imaginer comment la vie est apparue que comment la pensée est apparue. Ça encore, c'est un thème qui, sans doute, pourrait prêter à beaucoup de discussions. Peut-être citerai-je aussi, pour tirer de mon côté aussi tous les bons biologistes, un grand biologiste, Christian de Duve, qui a écrit un livre qui s'appelle « Vital Dust »,« Poussière de vie ». Et ce livre est intéressant, d'une part, parce qu'il a deux parties qui s'appellent « L'âge de la chimie » et « L'âge de l'information ». Et j'aimerais aussi, peut-être, que j'arriverai à vous montrer qu'en fait, les deux sont liés au sein de la chimie et que la chimie est une science aussi de l'information qui est contenue dans les molécules et stockée dedans. Peut-être aussi, pour comme à côté, un sous-titre de ce livre est « La vie comme un impératif cosmique ». Pour Tristan de Duve, la vie n'est pas un accident, c'est pratiquement un impératif, ce qui veut dire que les conditions de l'univers étant ce qu'elles sont, il y a de la vie probablement dans beaucoup d'autres endroits. Alors, reconstruire comment la vie est apparue, c'est aussi parler un petit peu de comment la chimie s'est faite au début, et ceci ferait sans doute l'objet d'une autre conférence, qui aura peut-être lieu, sur la chimie qu'on dit prébiotique. La chimie prébiotique, c'est la chimie d'avant la vie, qui essaye de reconstruire comment cela a pu bien se passer, comment les molécules qui sont celles de la vie ont pu être faites spontanément à partir de ce qu'il y avait dans l'atmosphère, dans l'eau, sur la planète Terre, et comment de là sont sortis les éléments qui ont donné lieu, donc les atomes, les molécules, qui ensuite donnaient lieu à ces molécules qui forment la vie. Ceci est un thème en soi, et c'est simplement donc ce type de chimie prébiotique qui essaie de décrire ce qui a pu se faire. Évidemment, il est extrêmement difficile de contrôler, comme toute science doit le faire, si ce qu'on décrit est correct, mais avoir un schéma plausible est déjà un pas. Ça montrer que ça aurait pu être comme ça parce qu'on sait le faire en labo, en laboratoire, c'est déjà une façon de dire que, après tout, pourquoi pas, ça a pu se faire comme ça. Comment alors cette science, la chimie, s'est-elle construite ? Étant donné les limitations de temps que j'ai, attaché à votre siège, on va donc faire un petit peu d'historique, mais extrêmement rapide. Au début, on s'est posé la question, évidemment, l'homme avec son esprit de curiosité et d'inquisition, de questionnement, s'est demandé rapidement de quoi s'est fait toutes ces choses autour de nous. Et beaucoup de schémas ont été proposés. L'un d'entre eux, qui était 5 siècles avant l'an 0, était celui qu'Empédocle avait déjà proposé, où il y aurait quatre éléments, le feu, l'air, l'eau, la terre, dont les combinaisons font des propriétés, le chaud, l'humide, le froid et le sec. C'est assez simpliste, mais bon, c'est un début d'essayer de comprendre de quoi les choses sont composées. Mais on a rapidement, après une bonne partie de temps où l'on s'est contenté de faire de la théorie, de réfléchir dessus, Aristote, etc., bon, c'est vrai, pourquoi pas. Mais la chimie est une science expérimentale qui essaie de comprendre la composition par l'analyse des objets qui lui sont soumis. Faire de l'analyse, c'est essayer de séparer quelque chose de compliqué, des mélanges, en quelque chose de plus simple. Et un procédé utilisé, c'est la distillation. Je vous montre ici la première page d'un livre, je vous le montre parce que ça a été imprimé à Strasbourg en l'an 1500. Il faut quand même bien montrer qu'il y a aussi de la civilisation du côté de l'Est. Donc le 8 mai 1500, sur les presses de Jacob Grüninger, qui avait appris ces choses chez Gutenberg, qui avait d'ailleurs passé à Strasbourg 30 ou 40 ans avant, est imprimé ce bouquin qui s'appelle « Liber de arte distillandi de compositis », livre de l'art de la distillation des composés, des complexes, par Hieronymus Brunswick. Et puis comme vous pouvez voir ici, il y a une espèce d'appareil de distillation qui d'ailleurs, dans son principe de fonctionnement, n'est pas trop différent de ces chimistes qui sont dans la salle pour en reconnaître comme une colonne à fractionnement. 1500, c'est pas trop mal. Donc analyser, ça veut dire séparer en ses composants pour comprendre comment c'est constitué pour arriver à l'ultime, à l'insécable, ce qui est déjà atomos, comme disait Démocrite déjà. Pas seulement ça, méthode empirique aussi, expérimentale. Ne pas simplement réfléchir, faire la théorie, ce qui est absolument nécessaire, mais la baser sur des faits expérimentaux. L'une des personnes qui a beaucoup, qui a contribué à l'introduction de l'expérimentation, je pourrais en citer beaucoup d'autres, ce que je vais faire est dans un sens assez arbitraire, Paracelse, qui est un de ceux qui a été un des premiers à vraiment essayer de faire de s'appuyer sur une méthode expérimentale, qui vaut ce qu'elle vaut. Enfin, c'était une personne qui avait fait. Alors, une des choses absolument nécessaires aussi, si on veut transformer la matière, c'est de savoir quelle est la règle de base de cette transformation. Bien, la règle de base sur laquelle toute la chimie se fonde, sur laquelle on ne peut pas comprendre les transformations chimiques, c'est évidemment Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On part d'un certain nombre de briques, on les recompose. Ce qu'on a mis dedans, on le retrouve à la fin, agencé différemment. Mais ça, c'est la loi de base sans laquelle on ne comprend pas les transformations chimiques. Mais quelles sont les briques qu'on veut transformer? Comment est-ce qu'on veut construire ces différentes maisons à partir des différentes briques? Au cours de l'histoire de la chimie, donc d'essayer de comprendre la matière, il est apparu rapidement qu'il y avait des éléments, c'est-à-dire des choses qu'on ne pouvait plus couper, qu'on ne pouvait plus séparer en des choses plus petites. Et on avait trouvé qu'il y avait ces éléments. Mais ça faisait un peu désordre, parce qu'on ne savait pas très bien quoi en faire. Il y en avait, on savait qu'il y en avait, mais c'était un peu un zoo, on avait des éléments, on ne savait pas très bien quoi en faire. Jusqu'au moment où, intuition tout à fait géniale, Mendeleïev est venu et a dit « tout ça, ça s'organise, tout ça c'est à mettre dans un tableau, et ce tableau vous permet non seulement d'organiser les éléments déjà connus à son époque, mais en plus de prévoir des éléments là où il y a des trous, de savoir que là on en trouverait un. » Et puis évidemment, on les a trouvés. Donc un progrès absolument fantastique. Je voudrais d'ailleurs citer l'état actuel de ce tableau de classification périodique des éléments, qui est montré ici. Je vais le montrer aussi pour une autre raison. J'avais commencé avec l'univers. Ben, ce que vous voyez là, ce sont toutes les briques dont tout l'univers, jusqu'à la dernière galaxie, est composé. C'est quand même assez incroyable d'avoir sous les yeux les briques qui font tout l'univers. Bon, il y a des artificiels là en bas, mais là-haut sont les naturels. C'est assez incroyable de savoir que sur une petite planète de ce grand univers, on a réussi à savoir que dans un tableau de ce genre se trouvaient toutes les briques qui font l'univers. Bon, la chimie alors, donc on a vu qu'il y avait des éléments, on a vu qu'ils étaient connectés, et donc elle a fait un tableau de la connectique un peu. Connecter les choses ensemble, savoir comment elles sont reliées. Ce qui a donné lieu à beaucoup d'essais de formulation de la structure chimique, différentes, variées. Je ne peux pas vous les montrer toutes. Là, il y en a trois types, l'une de Wurtz, l'autre de Loschmidt, l'autre de Kekulé, qui sont toutes des formulations assez primitive, sauf celle de Loschmidt, qui était vraiment très très bien déjà, qui était assez proche de la formulation actuelle. Il ne l'a pas écrit de la même façon, mais pour les chimistes à nouveau dans la salle, ils verront tout de suite que la formulation de Loschmidt est vraiment une formulation qui est très proche de ce qu'on utiliserait maintenant. Bon, on a la connectique. On lit les choses. On sait que AH est lié à un carbone, ceci à cela, ceci à cela. Mais ça ne suffit pas. Il est apparu assez rapidement que tout ça, ce n'est pas simplement un mot avec des lettres ou, disons, des objets qui sont connectés, mais que cette connexion fait appel à une structure, à une géométrie. Et ce progrès fondamental a été réalisé grâce à deux personnes. D'une part, Fantoff, qui, en 1874, avec tout à fait indépendamment Lebel, ici, ont réalisé que la nature, que la chimie était formée d'objets tridimensionnels, que c'était que la molécule en fait sort du plan. C'est pas quelque chose. Ce n'est pas simplement des connexions entre atomes qui composent la molécule. Ce n'est pas simplement, si ces connexions se font, une forme plane qu'on écrirait, mais que la molécule sort du plan et devient tridimensionnelle. Pour terminer, et puisque les molécules de la vie ont un sens tout à fait particulier, la vie est constituée de molécules de tout type, et les organismes vivants contiennent en particulier des molécules qui sont reliées les unes aux autres comme une main gauche et une main droite, des molécules dites chirales, et évidemment, bon, beaucoup d'entre vous savent sans doute que c'est Pasteur qui a été à l'origine de la reconnaissance de cette chiralité. Voilà donc en gros comment s'est construit la chimie moléculaire. Et je peux voir. Vous pouvez mettre en route là-bas. Donc de l'atome à la molécule, la chimie moléculaire s'est construite. Je voudrais maintenant vous donner juste deux exemples pour vous montrer comment elle a évolué. Juste deux points d'attache qui peuvent nous montrer comment ça s'est constitué. Tout d'abord, en 1828, l'urée a été synthétisée, c'est-à-dire qu'elle a été produite à partir des atomes qui la composent par un chimiste allemand, Friedrich Wöhler. Et vous voyez que bon, c'est une molécule simple. Il y a un carbone, C, un oxygène, deux azotes, N, et quatre hydrogènes. C'est pas énorme, mais enfin, c'était une synthèse, et en général, on s'accorde pour dire que la chimie de la synthèse moléculaire, la chimie moléculaire a commencé avec la synthèse de l'urée par Wöhler. C'était aussi une molécule importante pour une autre raison, cette synthèse notamment, c'est que Wöhler a produit l'urée à partir d'un composé minéral non organique, alors qu'elle est contenue dans des organismes, dans l'urine, ce qui, évidemment, a conduit à tuer le quasi-dogme de la force vitale, les gens disant qu'on ne pouvait pas, en laboratoire, produire des molécules contenues dans un organisme sans faire appel à un organisme ou à un organe de cet organisme. Wöhler a montré que, en gros, il n'y avait pas de solution de continuité entre l'urée, entre les espèces inorganiques et les espèces organiques. Voilà donc Wöhler, avec un regard confiant vers l'avenir. Il a eu raison, évidemment. Ah. Un peu plus tard, attendez, je vais peut-être vous montrer les gens d'abord. Deux groupes de chercheurs, dirigés par, d'une part, Robert Burns Woodward à Harvard à gauche et Albert Eschenmoser à l'École Polytechnique Fédérale de Zurich à droite, ont réalisé la synthèse de la vitamine B12. Alors ça, c'est une molécule déjà maintenant beaucoup plus compliquée que la urée. Vous voyez que bon, c'est une partie, il y a encore une petite partie là en dessous, en 1972 ça a été réalisé. Tout ce que vous voyez là-dessus, chaque petit coin, ça représente des atomes de carbone, d'hydrogène qui sont attachés dessus. Enfin, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que produire cette molécule à partir des éléments qui la composent, le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le phosphore, dans ce cas-là encore, et puis du cobalt au milieu, c'est déjà une entreprise évidemment extrêmement complexe. Elle a d'ailleurs demandé de l'ordre de 150 années-chercheurs, c'est-à-dire une quinzaine de personnes pendant 10 ans dans les deux laboratoires, peut-être même un peu plus que ça. C'est une énorme entreprise et c'est un peu la pierre de touche de la synthèse. Si on sait faire la B12, on sait à peu près fabriquer n'importe quoi. Depuis 72, évidemment, dans ces 30 années environ écoulées, il s'est passé beaucoup d'autres choses. La chimie de synthèse a encore acquis des nouvelles réactions et a encore accru son pouvoir de transformer la matière, de transformer un objet dans un autre et de construire des molécules de plus en plus compliquées. Mais on peut déjà dire que si l'on arrive à fabriquer en laboratoire, à partir de ces éléments composants, la vitamine B12, on a affaire à une science adulte, à une science qui sait, qui connaît son domaine, qui est bien assise et qui, bien sûr, est loin d'être terminée, mais qui est adulte. Donc, voilà la chimie moléculaire bien en place. Question ? Et alors, y aurait-il quelque chose par-delà la chimie moléculaire ? Essayons de voir ce qu'il pourrait bien y avoir. Ce que vous voyez là, ce ne sont apparemment, vous direz, pas tellement des objets chimiques. Ce sont deux cellules qui sont appelées cellules tueuses, qui sont des cellules qui, dans l'organisme, sont chargées de faire le ménage. Ici, il y a une cellule transformée, une cellule qui a dégénéré pour une raison ou pour une autre. Et ces cellules tueuses sont chargées de l'éliminer, de la détruire. Comment est-ce que les cellules tueuses savent que l'autre est une cellule à éliminer ? Il doit se passer quelque chose entre ces deux objets qui sont moléculaires par leur définition, par leur composition, et qui permet aux cellules tueuses de savoir que l'autre est une cellule à éliminer. Manifestement, ce qui se passe là n'est pas quelque chose qui a lieu dans les molécules, mais au contact entre les deux corps, les deux cellules, donc entre les molécules, au contact des molécules qui composent les membranes ou qui se trouvent dans les membranes de ces deux objets, de ces deux cellules, de type de cellules. Un autre exemple encore. Ce que vous voyez là, c'est un globule blanc qui, grâce à la technique, est devenu violet. Et sur ce globule blanc, des petits points qui initialement étaient bleus. Et bon, c'est des couleurs artificielles de toute façon, alors qu'elles soient l'un ou l'autre, c'est pas très grave. Là, le globule blanc porte ces petits points bleus qui sont le virus du sida. Ce virus, comme d'autres virus, va essayer d'infecter la cellule auquel il s'attache, à laquelle il s'attache, et il va pénétrer dedans, et puis se reproduire, etc., etc. Comment est-ce que le virus pénètre ? D'abord, comment est-ce qu'il s'attache à la cellule ? Comment est-ce qu'il pénètre ? Ce sont à nouveau des phénomènes, des processus qui font appel au contact entre ce qui fait le virus, les molécules qui composent le virus, et les molécules qui font la membrane de la cellule qui va être infectée. Incidemment, si on arrive à savoir quel est le mécanisme sur lequel est fondée cette interaction, ce contact, cette reconnaissance d'un objet par l'autre, on pourra aussi, par exemple, rendre le virus aveugle. On peut fabriquer une molécule qui se colle sur le virus et qui lui fait croire qu'il a trouvé la cellule. Il est aveugle, puis c'est terminé. C'est d'ailleurs l'un des chemins de recherche pour essayer de trouver des médicaments correspondants. Voilà, donc, il y a quelque chose d'intéressant, d'important, de fondamental, qui se passe non pas dans les molécules, mais entre les molécules. Et cette idée a donné lieu alors à cette notion de chimie supramoléculaire, celle qui s'occupe non plus de l'édification des molécules, de prendre des briques et d'en faire des maisons, des édifices, mais de savoir comment ces édifices interagissent entre eux. Parfois, je dis aussi que c'est une espèce de sociologie moléculaire, parce qu'il ne s'agit plus des individus, qui sont les molécules, mais que font les individus quand ils sont ensemble ? Ils se reconnaissent, ils se parlent, ils se touchent, etc. Et cette idée, donc, utilise non plus les liaisons fortes, c'est-à-dire quand vous construisez une molécule à partir d'atomes, cette construction se fait à partir d'un ciment, qui est appelée la liaison covalente, qui est une liaison forte qui permet aux atomes d'interagir solidement et de créer des objets très résistants, très solides, qui tiennent. C'est quelque chose de plus faible, c'est une colle plutôt. Ce sont différents types d'interactions physiques, des interactions électrostatiques, des interactions de van der Waals, des différents donneurs-accepteurs, etc. Et ces interactions plus faibles permettent aux objets de se toucher, en quelque sorte, de se parler, en quelque sorte, de s'accrocher les uns aux autres, et donc d'essayer d'entrer en contact et de se transmettre peut-être même des informations. Alors, il s'agit donc d'une chimie qui est par-delà la chimie moléculaire, qui s'appuie sur les interactions entre objets moléculaires, interactions faibles, liaisons intermoléculaires, et on passe des molécules aux objets supramoléculaires, qui ensuite, s'ils deviennent fonctionnels, peuvent servir à mettre au point un certain nombre d'objets plus compliqués, des circuits moléculaires, etc., qui rentrent plutôt dans le domaine des matériaux et des technologies de l'information. Mais on pourra peut-être, si j'ai le temps, dire un petit mot. Mais je voudrais d'abord vous peindre un aspect de cette chimie et de quelques caractéristiques de base. Ce que vous voyez ici, c'est Emil Fischer. Emil Fischer est le premier scientifique qui a réalisé que pour qu'une molécule biologique agisse, dans son cas c'était un enzyme, agisse sur son substrat, il faut que les deux soient complémentaires. Il a exprimé ça par l'image bien connue de la clé et de la serrure. Pour qu'un enzyme agisse sur son substrat, il faut qu'elle soit complémentaire comme une clé et sa serrure. C'est un espèce de phénomène de reconnaissance. La bonne clé rentre dans la serrure et, en plus, permet d'ouvrir la porte. Donc ça, c'est important aussi. C'est donc cette première idée qui était, bien sûr, assez, à l'époque, peut-être limitée, encore que Fischer avait fait un certain nombre de prédictions qui étaient très intéressantes. C'est, en gros, il n'a jamais exprimé sous forme de reconnaissance moléculaire, mais c'est manifestement la racine de ces phénomènes de reconnaissance moléculaire. Et le domaine s'est développé alors dans les 30 dernières années de la façon suivante. Sur la base de la chimie moléculaire, utilisant ces liaisons fortes pour lier entre elles, cimenter entre elles les briques qui sont les atomes, on peut construire des substances qu'on peut appeler des récepteurs capables, on espère, de reconnaître un certain substrat. Donc de jouer à la clé et à la serrure, on construit des serrures pour des clés données. Ces liaisons intermoléculaires donc sont utilisées pour lier l'un à l'autre, pour attacher l'un à l'autre. Et les trois fonctions de base qui ont été étudiées sont d'une part la reconnaissance d'un objet par l'autre, comment sélectionner quelque chose dans un mélange, aussi les transformations chimiques, réactivité, catalyse, lorsque le récepteur transforme l'objet qu'il a lié, le substrat qu'il a lié, en produits différents, et le transport, lorsque le récepteur aide le substrat à passer à travers une membrane, par exemple d'une cellule. Les cellules contrôlent les échanges avec l'environnement à l'aide d'une multitude de mécanismes qui mettent en jeu des molécules complexes, des protéines. Bien, on peut essayer de comprendre comment ce transport se fait, comment on peut, à l'aide des phénomènes de la chimie supramoléculaire, comprendre la façon dont on peut sélectivement ouvrir des portes dans les membranes, c'est-à-dire des passages, des pores dans les membranes. Je voudrais alors donner quelques exemples de reconnaissance moléculaire, juste deux, pour vous montrer comment on peut construire une compréhension de la reconnaissance entre objets chimiques. D'abord, il y a cette complémentarité des formes et des interactions entre récepteur et substrat, la clé et la serrure étendue d'une pure géométrie, du temps de Fischer, à l'inclusion des interactions, donc de l'énergie d'interaction entre les objets. Il faut une énergie pour lier, ce sont les sites d'interaction dans une molécule, les endroits où ça s'attache, où le substrat s'attache au récepteur. Mais surtout, et c'est ça peut-être, je pense, l'apport le plus fondamental de la chimie supramoléculaire à la chimie. Qui dit reconnaissance dit information. Cela veut dire qu'un processus de reconnaissance moléculaire est un processus informé, puisqu'il y a une sélection, et que l'information en question est stockée dans la molécule au niveau moléculaire, dans l'architecture de la molécule, mais que la façon dont cette information est ensuite utilisée, lue, travaillée, se fait au niveau supramoléculaire. Donc je pense que c'est, si vous en retenez une chose de cette conférence, je crois que l'important, c'est que c'est pour ça que je disais aussi que dans le livre de De Duve, l'âge de la chimie, l'âge de l'information, on peut faire le pont entre les deux. Une molécule est un objet informé, un objet qui peut utiliser cette information et qui réalise des processus qui sont des processus informés. Alors, le processus informé le plus important pour nous, tel que nous sommes, êtres humains, est montré là. C'est trivialement simple. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont les quatre lettres de base de notre code génétique, quatre molécules, 1, 2, 3, 4. Ces molécules contiennent des sites d'interaction. Pour les chimistes, un donneur de liaison hydrogène, un accepteur, on appelle ça DAA. Le complémentaire de DAA, c'est évidemment AAD. L'autre molécule à côté, c'est A. Pardon, celle-là, c'est DAD. Et celle-là, c'est ADA. Donc, dans cette interaction, et de même que celle-ci, on a ADD, DAA, on a des interactions qui sont des interactions complémentaires et qui font que ces deux molécules vont s'apparier. Le stockage de l'information de notre code génétique se fait dans les quatre lettres qui sont là. La lecture de cette information est, elle, supramoléculaire, elle se fait par des interactions de la façon qui est montrée ici. Et c'est cet énorme programme, ce génome des organismes vivants, qui utilise les mêmes quatre lettres dans des séquences différentes, qui fait la différence entre une tomate, un éléphant, une bactérie, etc. Alors comment est-ce qu'on peut essayer de comprendre et construire au laboratoire des objets artificiels ? Parce que la chimie est là, comme je le montrerai vers la fin, j'essaierai de le faire comprendre, pour justement créer ce qui n'a pas encore été fait, ce qui n'est pas dans la nature. Comment essayer de comprendre ? Pour comprendre, il faut simplifier. Eh bien, voyons donc, si le récepteur moléculaire ressemble à une serrure, voilà trois clés différentes, dont évidemment l'une correspond à la forme de la serrure. Essayons maintenant de voir quel serait le phénomène le plus simple. Le phénomène le plus simple, c'est la reconnaissance d'une sphère. Géométriquement, dans l'espace à trois dimensions, la sphère est l'objet le plus simple. Elle est définie par son diamètre. En chimie, en plus, elle a une charge. Bon. Ça, ce sont des sphères qui composent ce qu'on appelle les métaux alcalins, dont l'un est très connu, le sodium, puisqu'il est dans le sel de cuisine, le chlore de sodium. Et cet ensemble représente cinq boules de diamètre croissant, de la gauche vers la droite, portant une seule charge. Bon, alors on peut se dire, s'il y a cinq clés, fabriquons cinq serrures ayant un trou correspondant à la boule, donc un trou sphérique, et taillées sur mesure pour qu'il y ait une taille correspondant aux tailles des boules que vous voyez ici. Alors on peut s'embarquer dans de la synthèse chimique moléculaire pour fabriquer cet objet à destination supramoléculaire. On veut faire un objet sphérique, ou du moins le plus proche possible, de sorte qu'une espèce sphérique puisse pénétrer dedans. On avait appelé ça à l'époque des cryptants, parce qu'il y a une cavité, une crypte, qui forme des cryptates. Voilà donc la structure chimique d'un objet de ce genre, avec un azote, et 6 oxygènes qui servent de site d'interaction, et puis à chaque fois des groupes CH2, bon, l'architecture de cette molécule, qui est représentée dans des modèles moléculaires. Celle que vous avez vue, c'est celle-ci. Si vous diminuez la taille d'un des ponts, la cavité devient plus petite. Ça, c'est le pont du haut a été diminué en longueur. Si vous diminuez la longueur de deux de ces ponts, dans cette ellipsoïde là, à trois ponts, ben, la cavité sera encore plus petite. C'est les deux ponts du bas qui ont été contractés pour donner une cavité encore plus petite. Et effectivement, la plus petite correspond à l'ion lithium, le plus petit de la série. Celle-là, à l'ion sodium, le deuxième. Celle-là, à l'ion potassium, le troisième. Et en adaptant donc synthétiquement, par les méthodes de la synthèse moléculaire, l'objet récepteur, la serrure, à la clé, on arrive ainsi à reconnaître la clé en question, à la sélectionner. Juste un exemple un petit peu plus compliqué. Au lieu d'une sphère, on va prendre un tétraèdre, des objets tétraédriques. En chimie, évidemment, des objets tétraédriques, puisque Lebel et Fantoff avaient introduit justement la notion de carbone tétraédrique, de carbone à structure tétraédrique. Un substrat tétraédrique, par exemple, est l'ion ammonium avec un azote au milieu et quatre choses blanches qui sont des hydrogènes. 1, 2, 3, 4 hydrogènes, un azote, un ion ammonium. C'est une clé tétraédrique. Il va falloir construire une serrure tétraédrique qui lui corresponde, c'est-à-dire entourer cette clé par quatre boules bleues, là, c'est des atomes d'azote, qui permettent d'interagir avec les NH le long de l'axe NH. On complémente par quelques boules rouges qui ont des oxygènes parce que ça rajoute de la stabilité énergétique. Ça, c'est, bon, c'est, ça aide en quelque sorte. Mais l'important, c'est de disposer dans l'espace quatre sites d'interaction qui sont représentés par les boules bleues de façon tétraédrique à la bonne distance du centre pour que ce substrat ammonium puisse juste s'y loger. Voilà l'objet chimique finalement qui va être fabriqué, que nous avions fabriqué il y a maintenant assez longtemps. 1, 2, 3, 4 sites disposés tétraédriquement, et puis là, les 6 oxygènes qui les entourent. Une autre représentation simplement pour montrer qu'il y a 4, 1, 2, 3, 4 azotes situés au sommet d'un tétraèdre, il y a 6 oxygènes situés au 6 sommets d'un octaèdre. Et alors, quand vous mettez ça en contact d'un ion ammonium, dans ce cas-là, vous trouvez que cet ion pénètre dans la cavité, s'attache, les petits points là veulent dire liaison faible. Ces petits points veulent dire liaison faible, liaison hydrogène, donc attachement ici, attachement ici, attachement ici, attachement ici. La taille correspond, la forme correspond, il y a une complémentarité excellente entre l'objet qui est dedans, l'objet qui est dehors. C'est aussi une illustration de ce qu'est un objet supramoléculaire. L'extérieur est une molécule, le récepteur, l'intérieur est une molécule, le substrat, l'ensemble est un nouvel objet dont les propriétés sont différentes des propriétés des deux éléments, des deux objets qui composent l'objet supramoléculaire lui-même. Encore peut-être un exemple des molécules qui cette fois-ci ont été fabriquées au Collège de France dans mon laboratoire, qui sont des molécules formées de deux parois planes séparées par un pont qui les maintient à une distance, donc un peu de cette façon-là. Ce genre de molécules peuvent servir, par exemple, à faire la différence entre un acide nucléique à double hélice et un acide nucléique à simple hélice, parce qu'elles savent reconnaître la simple hélice et s'attacher à la simple hélice, au brin unique, c'est pas une simple hélice, au brin unique et plutôt qu'au double brin, qui lui est une double hélice. Donc, plutôt que de s'attacher aux acides nucléiques à double brin, celle-là arrive à reconnaître les acides nucléiques à simple brin ou, dans les acides nucléiques compliqués, les endroits où les... voilà un exemple de cette molécule, les endroits où le double brin n'existe pas, où il fait des simples brins. Je voulais quand même vous montrer quelques structures moléculaires aussi. Incidemment, puisque j'en cause... Quand on dit que la chimie, c'est difficile, eh bien vous rentrez ça, vous n'êtes pas chimiste, vous ne savez pas de quoi ça cause. Ben, c'est comme un langage. Si vous voulez apprendre le chinois, il faut apprendre le chinois. Si vous voulez apprendre la chimie, il faut apprendre les lettres, il faut apprendre la façon dont on utilise les mots, dont on fait les mots. Après tout, c'est une langue. Il y a des carbones, il y a de l'azote. Vous écrivez un mot avec des lettres. C'est pas plus compliqué que... C'est moins compliqué que d'apprendre le chinois, je pense. Si ce n'est pas le chinois, je ne peux pas vous dire. Alors, il y a un certain nombre d'autres phénomènes dont on pourrait parler encore, et je voudrais, attendez juste voir, simplement d'abord conclure sur cette question de reconnaissance moléculaire. Qu'est-ce qu'on apprend en faisant cela? Tout d'abord, on apprend à manipuler ces forces, ces interactions faibles qui sont celles qui font l'objet de la chimie supramoléculaire. Comme les chimistes moléculaires ont appris au cours des 150 dernières années à contrôler comment faire des liaisons covalentes entre atomes ou les couper, c'est-à-dire effectuer des réactions chimiques pour construire des molécules de plus en plus complexes, il s'est agi, et il s'agit encore, de comprendre comment manipuler les interactions faibles pour construire les objets supramoléculaires. Cela permet de mettre en œuvre des processus de reconnaissance dont je vous ai montré deux exemples les plus simples, mais beaucoup d'autres ont été développés, beaucoup de laboratoires se sont mis à travailler là-dessus et ont évidemment énormément enrichi le domaine. Cela permet de sélectionner, de reconnaître des objets, de faire, par exemple, de mettre au point aussi ce qu'on peut appeler des sondes spécifiques, par exemple un produit de l'environnement. Si vous avez dans un détecteur à membrane, là-dedans, un objet chimique qui réagit sélectivement avec une molécule donnée, au moment où cette molécule est présente, si elle s'attache à ce récepteur, un signal pourra être éventuellement généré et détecté. Donc, on peut mettre en évidence des détections sélectives. Et puis, évidemment aussi, si l'on comprend la façon dont on peut reconstruire la reconnaissance, quelles sont les bases de la reconnaissance moléculaire, on comprendra aussi mieux comment fonctionne la reconnaissance des objets biologiques entre eux, et notamment de ces cellules qui interagissent avec d'autres cellules, ou de ces virus qui essayent de pénétrer, qu'on voudrait empêcher de pénétrer les cellules, etc. Alors, je voudrais juste encore donner, avant de passer à la dernière partie, donner encore un exemple qui aussi illustre bien que la recherche fondamentale, il faut la laisser totalement libre et surtout pas essayer, comme on le fait très souvent, trop souvent maintenant, de lui attacher tout de suite une destinée technologique. Évidemment, nous sommes tous intéressés à des applications, mais je crois qu'il est très important qu'il y ait une recherche totalement libre, sans aucune limite, pour qu'on puisse savoir ce qui est possible et puis voir après. Il faut savoir si on veut l'utiliser pour une application ou pas. L'exemple que je donne là est le suivant. Nous avions étudié des phénomènes de transport il y a fort longtemps, qui donc c'était une façon d'essayer de comprendre comment on pouvait faire passer à travers des membranes artificielles ou biologiques un certain nombre d'objets substrats en utilisant le porteur sélectif, donc un objet qui va reconnaître le substrat, le dissoudre dans la membrane et le relâcher de l'autre côté. Eh bien, dans les temps récents, est passé évidemment à l'ordre du jour les problèmes de thérapie génique qui reposent sur la possibilité de transférer des gènes à l'intérieur d'une cellule et de les faire exprimer. L'une des approches qui a montré récemment d'ailleurs qu'elle était une très bonne approche est d'utiliser ce que la nature a développé de mieux comme transfecteur de gènes, le virus. Le virus, c'est une façon d'entrer dans une cellule. Alors si on le modifie, si on l'adapte, etc., on arrive à l'utiliser comme, en quelque sorte, le cheval de Troie pour faire rentrer le virus, pour faire rentrer le gène qu'on veut exprimer dans la cellule. L'autre approche qui est chimique est de se dire pourquoi ne pas essayer de faire des transporteurs chimiques qui s'accrochent au gène, à l'ADN correspondant à ce gène, qui le mettent en petit paquet pour qu'il ne soit plus reconnu, parce que l'ADN tout seul ne va pas passer la membrane, il est trop hydrosoluble, pas assez lipidique, pas assez membranophile en quelque sorte, et bien habillé comme ça, caché à l'intérieur de cet ensemble d'objets chimiques, il va pouvoir passer. Et effectivement, dans les dernières années, plusieurs laboratoires, dont celui de Jean-Paul Bern en partie, notamment, et puis aussi des choses que nous avons faites au Collège de France, ont permis de montrer qu'on pouvait mettre au point des vecteurs chimiques, des petites molécules, qui s'attachent à l'ADN, le neutralise en quelque sorte, neutralise sa charge et permet à l'ensemble de passer à travers la membrane et de conduire à une expression de ces gènes dans des animaux, des souris, des rats, enfin d'abord évidemment dans des cellules en culture, des cellules primaires et ensuite dans des animaux vivants. Comme j'ai dit, quand nous avions étudié ces phénomènes d'une part de reconnaissance et d'autre part de transport, on était à milieu de penser qu'un jour ce serait en rapport avec un transfert de gènes qu'on pourrait l'utiliser. Eh bien, c'est encore une fois ma plaidoirie en faveur d'une recherche fondamentale qui simplement doit garder les yeux ouverts pour voir ce qui se passe à côté. Je crois qu'il est très important de se rendre compte de cela. Une science ne se développe pas tout seul, on n'est pas dans un désert. Les autres se développent et soudainement apparaissent des connexions que personne n'aurait pu voir simplement parce que personne ne sait dans une science ce que l'autre est en train de faire. Je crois que c'est très important ça aussi. Une autre utilisation de cette chimie, et là, malheureusement, je devrais un peu vous laisser sur votre faim, mais je voudrais quand même dire juste un mot, c'est d'utiliser ces objets qui ont de la reconnaissance moléculaire pour en faire, en quelque sorte, des composants moléculaires, des espèces d'éléments qu'on pourrait un jour utiliser dans des architectures plus complexes où auraient lieu des transferts d'électrons, des transferts de photons, donc un peu des choses qui se passent dans des machines électroniques, dans des dispositifs électroniques. Et on pourrait penser de cette façon mettre au point des dispositifs moléculaires qui seraient électroactifs, donc échangeant des électrons, ionoactifs, échangeant des ions, comme par exemple les ions qui passent à travers les membranes, photoactifs, échangeant des photons, de la lumière, etc. Et sur la base de ces propriétés des objets supramoléculaires, on peut imaginer tout un ensemble de dispositifs qui vont manipuler des électrons, manipuler des ions, manipuler des photons, dans un but qui sait ultimement le stockage, le traitement, le transfert de matière à travers les membranes. Qui dit transfert de matière dit création d'un signal. Si quelque chose apparaît de l'autre côté de la membrane, ben ça peut vouloir signifier quelque chose. Et ce signal peut, d'après la façon dont il est conçu, conduire à un transfert d'information. C'est donc une sorte de chimie du signal qui s'est développée, et qu'on peut d'ailleurs appeler, que j'aime bien appeler, une sémiochimie, un peu aussi parce que mon ancien collègue Roland Barthes, sémiologue renommé, avait introduit ce terme, et puis on sémione en grec voulant dire signe. Je m'étais dit que bon, c'est une bonne façon de relier le signal à la chimie, le signe à la chimie, donc des signaux moléculaires qui portent l'information moléculaire. C'est la façon dont on peut chimiquement créer des signaux. En fait, les organismes vivants créent des signaux tout le temps. La transmission nerveuse entre les nerfs se fait par de la signalisation chimique. Ceci étant, après avoir compris comment manipuler les objets moléculaires pour des questions d'information, pour des questions de reconnaissance moléculaire et donc de manipulation d'information et de lecture de cette information, on peut aussi se poser une question de plus. Cet édifice que je fabrique à partir des briques qui sont ces maisons, ces serrures, qui lient d'autres, ne pourrait-on pas, une fois qu'on a compris quels sont les processus de base qui conduisent à cette reconnaissance, à ces interactions, essayer de faire en sorte que ce programme moléculaire se déroule tout seul, c'est-à-dire stocker dans l'objet moléculaire toute l'information, faire en sorte que cette information puisse être lue et qu'elle puisse spontanément, mais de façon dirigée, conduire à une organisation donnée. C'est ce qu'on appelle l'auto-organisation. Donc, plutôt que de pré-organiser la serrure, par exemple, on voudrait qu'elle se fasse toute seule, sur la base de ce qu'on stockerait dans les éléments, dans les briques, pour que ça s'assemble tout seul. Peut-on passer de la pré-organisation à l'auto-organisation? Évidemment, on peut, puisque ça se fait. Et ça se fait où? Ça se fait dans les systèmes biologiques, qui sont des systèmes utilisant des molécules, fonctionnant sur la base des molécules, et donc qui sont des systèmes moléculaires. Voilà l'assemblage d'un virus, le virus de la mosaïque du tabac. Et ce virus est, comme ce schéma à droite là l'indique, formé d'environ 2200 briques, qui sont représentées par cette espèce de poire là, 2200 briques qui entourent l'ARN central, l'acide nucléique et le génome du virus au centre, et ça se fait tout seul, c'est-à-dire que si vous êtes dans les bonnes conditions, pH, force ionique, etc., et si vous mélangez simplement les briques et l'ARN, ça va tout seul conduire à l'édification de cette espèce de tour hélicoïdale. Et les briques se mettent les unes à côté des autres et ça génère l'objet final. C'est intéressant. Ça veut dire que les molécules contiennent tout ce qu'il faut pour que spontanément on obtienne l'objet final. Bien, ça, on peut le faire artificiellement, mais je voudrais juste faire remarquer que cette auto-organisation en fait vraiment une espèce de système programmé. On a bien l'impression qu'il y a un programme là-dedans. Le programme est stocké, l'information est stockée dans les molécules, elle est lue par les interactions, et il se déroule jusqu'au moment où c'est terminé, alors ça s'arrête. Donc il y a reconnaissance entre les objets, ensuite croissance vers l'objet final, et terminaison, quand c'est terminé, il y a quelque part quelque chose qui dit c'est fini, on stoppe, on a fait ce qu'il fallait faire. Donc on peut bien voir que les systèmes moléculaires sont des systèmes programmés, fondés sur l'utilisation de l'information stockée dans les molécules, lue ensuite de façon supramoléculaire. Je pourrais là vous citer alors énormément d'exemples de réalisations artificielles, d'objets que nous et d'autres avons fabriqués. Par exemple, je vais là simplement maintenant vous donner un peu un bestiaire des choses, vous indiquer des illustrations plutôt que d'expliquer en détail. Voilà, deux molécules en forme de brin linéaire. Vous rajoutez la colle qu'il faut, le ciment. Dans ce cas-là, ce sont des ions métalliques de cuivre. Vous mélangez le tout, ça s'enroule l'un autour de l'autre et ça fait une double hélice artificielle. Rien d'autre à faire qu'à mélanger et ça génère automatiquement l'objet final. Vous avez là un exemple d'une de ces doubles hélices. C'est une structure déterminée par rayon X qui montre bien l'enroulement d'un brin qui est bleu sur un brin qui est rouge et puis les boules jaunes et puis les autres boules que vous voyez sont des ions métalliques qui connectent les choses entre elles et qui représentent la façon de lire l'information qui est dans ces objets. On peut faire des cages assez compliquées. Voilà par exemple des cages moléculaires qui sont des plateaux, vous voyez là des plateaux, des choses plates, planes, puis des espèces de piliers verticaux, et ces objets plats sont fixés aux piliers verticaux par ces petites boules qui sont des ions métalliques, qui sont en quelque sorte le ciment qui est utilisé. Ben, si vous mélangez les objets allongés, les piliers, les objets plats, les plateaux, les sols, plafonds, etc., avec le ciment qu'il faut, l'ion métallique en question, spontanément, cet objet se fabrique, s'édifie, sans que vous ayez rien d'autre à faire que simplement de laisser se faire. Et voilà ce qui en résulte. Alors ça, ce n'est pas de l'imagination, c'est la réalité, c'est une structure déterminée par une technique qu'on appelle la diffraction des rayons X, qui vous donne la forme exacte de cet objet, tel qu'il est à l'échelle nanoscopique, à l'échelle de cette molécule même. Donc vous voyez là les piliers, l'orange, vous voyez là les objets plats et puis les petites boules jaunes sont ce qui le maintient ensemble. Oui. Alors, il y a un certain nombre d'autres objets qu'on peut construire et je voudrais juste là peut-être attirer votre attention sur une chose, c'est que non seulement on peut essayer par exemple de mimer les doubles hélices naturelles, bien que ça n'ait rien à voir, il n'y a pas de relation directe, c'est simplement la géométrie qui est une analogie, mais il y a peut-être aussi d'autres choses à tirer de cette possibilité de contrôler l'auto-organisation. Parce que si on pouvait arriver à programmer un système de sorte à ce qu'il vous fabrique une architecture terminale voulue, vous n'avez plus besoin de fabriquer, ça va tout seul. En quelque sorte, si vous concevez de façon correcte les objets que vous mélangez, si tout va bien, si c'est bien fait, vous allez spontanément fabriquer l'objet final. En quelque sorte, non. Je ne vais pas utiliser ce terme. L'objet final va spontanément se faire tout seul, par auto-organisation, donc vous n'avez plus besoin de le fabriquer, de manipuler les objets, les disposer, les mettre ensemble. Je voudrais vous donner juste cet exemple. Alors, bon, c'est encore une fois de l'écriture chimique, une molécule ici, qui est une espèce de petit bâton raide, rigide, avec des points d'ancrage qui sont là. Là, 1, 2, 3, 4, 5. Vous mélangez à ce truc-là 20 équivalents d'ions argent, et vous obtenez spontanément la formation de cette espèce de chose, une espèce de grille, qui met en place 9 molécules et 20 argents. Spontanément. Comment est-ce qu'on sait ça ? Eh bien, on le sait parce que on peut en déterminer la structure. Voilà. Avec donc les 20 argents, les 9 molécules. Et je vous montre ça non seulement parce qu'il y a beaucoup d'objets qui se mettent ensemble d'un coup, parce que la programmation est correcte, mais aussi parce que, regardez bien ces 20 argents, 20 points, disposés dans l'espace de façon bien régulière, ça rappelle assez ce que vous voyez là, qui sont ce qu'on appelle des réseaux de points quantiques fabriqués dans du semi-conducteur par des méthodes de micro-fabrication, qui sont les techniques absolument fantastiques qu'ont développées les gens faisant de la microélectronique. Mais il faut se rendre compte d'une chose. Les dimensions là sont environ 1000 fois plus grandes que celles que vous avez vues auparavant. Et ceci, il faut le fabriquer avec des techniques complexes et pas si faciles à mettre en œuvre. Évidemment, extrêmement efficaces, comme on le sait. Mais ce serait peut-être pas mal de pouvoir se dire qu'un jour, il sera peut-être possible de fabriquer ces objets sur la base de la façon dont on a conçu les éléments pour qu'ils se fassent tout seuls et qu'on n'ait plus besoin de les fabriquer. Donc passer de la fabrication à l'auto-génération, l'auto-organisation des objets en question. Bon, cela conduit bien évidemment à se dire que l'une des branches importantes de la chimie, mais ça, bon, les grands médias s'en sont déjà occupés aussi, puisqu'on en a causé peut-être parfois un petit peu trop, c'est ce domaine qui s'appelle les nanotechnologies, les nanosciences, la nanochimie, c'est-à-dire la chimie à l'échelle du nanomètre, de 10 angstroms donc, et qui permet la fabrication d'objets très petits, mais peut-être faudra-t-il dans l'avenir penser à une fabrication non pas pas à pas par des méthodes de fabrication, mais par des méthodologies d'auto-organisation, de sorte à ce que l'assemblage se fasse spontanément, mais de façon dirigée. Dirigée par les informations contenues dans le système et la façon dont l'ensemble a été programmé. Alors, je voudrais terminer par un autre aspect de la chimie. La chimie, c'est des édifices moléculaires. Ce sont des édifices qui aussi ont une forme, et pour le chimiste, il y a une certaine beauté là-dedans. Et je voudrais vous donner simplement quelques petits exemples de ça. Ça, ce n'est pas une diapo qui est à l'envers, contrairement à ce que vous pourriez croire dans l'assistance. C'est simplement mis expressément comme ça, pour montrer que ça ressemble pas mal à ça, qui est une sculpture de Hans Arp, appelée Ptolémée. Matisse a certainement joué sur la complémentarité de forme et de couleur. Question de clé et de serrure. Voilà cet objet que vous avez déjà vu, 4 azotes, localisé au sommet d'un tétraèdre, et des oxygènes au sommet d'un octaèdre, mais surtout un cercle avec une branche devant et une branche derrière. Voilà une sculpture de Max Bill qui se trouve à Copenhague, enfin à Louisiana, à côté de Copenhague, dans un très beau parc de sculptures. Alors, une chose aussi, parfois les chimistes conçoivent, d'une part ce sont des chimistes, et d'autre part ils se rendent compte qu'il y a quelque chose d'artistique là-dedans, et il y a notamment un ami, un chimiste hongrois, qui s'appelle Belavizi, qui a... C'est dit que dans les formes moléculaires, il y a des éléments artistiques très intéressants. Et je voudrais vous donner deux illustrations de ça. Ça, c'est donc ce monsieur, c'est un petit bouquin qu'il avait fait. Et je vais vous montrer comment il a réussi à transformer un peu, étirer quelques formes moléculaires pour en faire un objet esthétiquement très beau. L'essence de rose s'appelle le phényléthanol. Quand vous sentez une rose, c'est un produit que les chimistes de façon barbare, appelleront le phényléthanol. Le phényléthanol, c'est ça, c'est un phényl accroché à un groupement éthanol. Bon, il est un peu tordu de cette façon-là, comme vous le voyez, enfin, comme vous allez le voir. Puis maintenant, essayez de retenir ce truc-là, cette forme. Si vous pouvez. Voilà. Alors, c'est un petit peu grand, peut-être, mais vous voyez quand même, là, le phényl en haut, CH2, CH2, OH. Non, c'est fait intentionnellement, c'est pas moi qui artificiellement essaie de recoller quelque chose à ça. Ça, c'est tout à fait un autre aussi. Alors, il faut revenir en arrière, s'il vous plaît. Voilà, alors ça, ce sont des substances qu'on appelle linalol, ce sont des terpènes, ça se trouve dans les plantes. Voilà le linalol. Puis là, un acétate, il y a un groupement acétyl, puis ça a l'air d'être des danseurs. Les deux pieds, les bras, etc.
Voilà ce que Bellavisi en a fait.
Voilà. C'est pas mal, non? Et il a aussi, il m'a fait un cadeau qui est de prendre le premier cryptate qu'on ait fait et d'en faire une sculpture. Voilà.
Bon, voilà donc pour l'aspect un peu artistique de la chose. J'aurai d'autres exemples, mais le temps me manque, alors on en restera là.
Mais je voudrais conclure sur une chose. Je voudrais conclure sur la considération suivante. C'est que je vous ai montré que graduellement, la chimie a, disons les sciences moléculaires, il ne faut pas être chauvin, que ce soit la chimie, la physique, autre chose, tout ça, c'est de la science, a essayé de comprendre de quoi a été composée la matière, comment a été agencée ces choses qui la composent, ces briques, et comment la complexité lentement s'est installée. Ce faisant, d'une part, elle comprend, elle découvre ce qui se trouve dans ce qui est autour de nous, et elle essaie de le comprendre, mais il y a un pas de plus. On peut faire des choses qui n'existaient pas avant que vous les ayez faites. Il est courant dans un laboratoire de chimie d'avoir, à la fin d'un certain temps, un jour, une semaine, un mois, quelques années, une substance dans un pot que personne n'a jamais eu en main avant vous. Alors ça peut être une substance inintéressante, il y a des romans inintéressants, mais il y en a des très intéressants. Ce n'est pas parce qu'on a fait quelque chose de différent que c'est nécessairement très bien et très intéressant. Mais il y a un acte créateur là-dedans. Et cette possibilité qu'ont les sciences de façon générale et que l'esprit d'investigation scientifique a donné à l'humanité, Leonardo da Vinci l'a déjà bien vu quand il a écrit « Là où la nature cesse de produire ses propres espèces, l'homme en se servant des choses naturelles, nous savons maintenant ce que c'est, le tableau de Mendeleïev, le tableau de la classification périodique des éléments, en accord avec cette nature même, les lois de la physique, l'équation de Schrödinger, hein, c'est la base. Et alors la phrase, la boule, la partie importante, commence à créer une infinité d'espèces. Créer, il était artiste, c'est un mot très fort pour un artiste de dire créer, bien, la science crée des objets, des choses neuves qui n'ont pas existé auparavant. Et donc, il s'agit en gros d'essayer, dans l'image de cette main de Rodin qui la pierre fait sortir une sculpture qui n'était pas contenue, ou comme un écrivain qui, à partir des mots, écrit une œuvre qui n'était pas contenue dans les mots, ou un compositeur qui, utilisant les sons, les agences pour en faire une œuvre de musique qui n'était pas contenue dans les sons, de la même façon, utilisant ce que l'univers nous donne, nous pouvons inventer tous les mondes qui ne sont pas encore créés dans tout l'univers des mondes possibles qui peuvent être contenus dans cet univers. Dans un sens, le chimiste en particulier et le scientifique en général est un peu un artiste de la matière. Merci beaucoup.
Merci pour votre conférence. J'ai noté trois choses fondamentales, que j'ai retenues en tout cas, qui sont l'auto-organisation qui crée l'objet ou définissent l'objet. La deuxième a été la clé et la serrure, et surtout l'information et le transfert d'information. Alors, ça m'amène à quelque chose qui sont une clé et une serrure merveilleuse, qui sont soit deux cellules ou deux qui sont l'ovule et qui sont le spermatozoïde, et qui sont donc la clé et la serrure. Et je voulais savoir s'il y avait des chercheurs qui se penchaient sur la masse d'informations, puisque vous avez parlé d'informations, contenues dans ces deux petites cellules qui vont nous créer et nous transformer et donc déterminer l'objet.
Oui, bien sûr. D'une part, vous savez que le génome humain a été séquencé, donc toute l'information qui se trouve dans ces deux cellules est maintenant connue. Bon, elle est différente sur les individus, mais on sait au moins comment c'est réparti. Il y a plusieurs processus dans ce que vous signalez. D'une part, la façon pour le spermatozoïde de pénétrer l'ovule, il se fait déjà des phénomènes de reconnaissance. On connaît les molécules de mieux en mieux qui font qu'il puisse y avoir attachement puis pénétration. C'est un phénomène complexe. Et ensuite, la moitié, il y a une moitié de génome dans chacune des cellules, se mettent ensemble pour faire le génome de l'organisme final. Et ce qui est contenu, l'information qui est contenue dans ce génome humain, et donc a été séquencé, et maintenant on arrivera par la suite à essayer à comprendre de mieux en mieux à quoi servent toutes ces bases nucléiques, tous ces éléments d'information qu'on a réussi à déchiffrer.
Monsieur, essayez de vous en tenir à une question, si c'est possible. Hein.
Monsieur le professeur, merci de votre exposé. Voici ma question. Lorsque nous prenons des médicaments, donc produits chimiques, ils sont censés agir en des lieux précis de notre organisme. Comment peut se comprendre les phénomènes de, je dirais, mémorisation d'informations cellulaires à propos d'interfaces spécifiques cellules-médicaments, interfaces qui, s'il s'agit par exemple de médicaments pris pour la première fois, peuvent ne jamais avoir eu lieu auparavant. Est-ce cela une forme d'auto-organisation ? Merci.
Oui, pas vraiment de l'auto-organisation, mais de la reconnaissance moléculaire. Un médicament est un objet moléculaire que l'on conçoit sur mesure, de sorte à ce qu'il vienne occuper un site précis, aussi précis que possible. Évidemment, c'est ça l'un des problèmes. Il faut qu'on puisse cibler exactement la molécule que l'on veut, pas seulement la molécule, mais aussi le tissu. Il faut cibler le tissu, puis cibler la molécule. Et le médicament est alors là pour soit inhiber une certaine fonction ou activer une fonction donnée qui conduit alors à un certain nombre, une cascade d'autres événements. Donc c'est les phénomènes de reconnaissance moléculaire sont à la base de la conception d'un médicament qui doit agir sur une cible biologique précise.
Monsieur, madame.
Après, j'ai été assez fascinée par ce que vous avez dit de la transcription des objets chimiques en œuvres d'art. Je voudrais savoir ce que vous avez pu penser en tant que chimiste du système périodique de Primo Levi qui fait des rattachements à des personnages.
Ah ben, évidemment, je crois que tout chimiste a lu Primo Levi là-dessus. Je crois que c'était très intéressant et c'est toujours d'une façon absolument, par le détour d'un certain nombre de choses. Bon, c'était parfois plus ou moins détourné, mais c'est toujours d'une façon extrêmement profonde qu'il a relié un certain nombre d'événements qui ont eu lieu à des travaux, des réactions, des effets chimiques qu'il avait observés, auxquels il avait travaillé.
Madame. Oui, allez-y.
Un grand écrivain, merci pour votre conférence, un grand écrivain européen, mort il y a un peu plus de 60 ans, qui n'était ni plus critique ni plus fanatique de l'œuvre de Freud, a écrit que la psychanalyse serait un jour remplacée par une chimie extrêmement fine. J'aimerais savoir quelles sont les perspectives dans ce sens.
Bah écoutez, oui, c'est un problème intéressant, c'est sûr. Ça mériterait pas mal de débats. Mais disons en gros ceci. J'avais au début, de façon que j'ai dit très audacieuse, relié sur une même espèce de courbe la matière organisée, etc., vivante, pensante. Bon, la psychanalyse fait partie de la partie pensante, évidemment. Notre cogitation, nos phénomènes de pensée sont certainement portés par un organe. Cet organe est le siège d'un grand nombre de processus physiques et chimiques qui le font fonctionner. Agir là-dessus, on sait très bien déjà agir et de plus en plus on saura agir sur cet organe. Il y a aussi d'ailleurs une autre chose, entre parenthèses, qu'il faudrait savoir faire, c'est mieux l'utiliser et apprendre à l'utiliser. Je crois que le cerveau, qui a été pour l'instant l'objet le plus complexe que l'évolution ait fourni, est encore extrêmement mal compris d'une part, et ce qui est encore beaucoup plus mal fait, c'est d'en réaliser toutes les potentialités. L'éducation devrait le faire. L'éducation, c'est un phénomène qu'on fait une fois. On la rate, on le réussit, mais c'est qu'une fois. Un jour, je crois, qu'on saura beaucoup mieux comment déjà tirer tous les potentiels du cerveau qu'il existe, sans même parler de la façon dont on pourrait agir dessus. Premier point. Alors, en ce qui concerne la façon d'agir, et cette façon que probablement on a pensé à un support matériel, et ce support matériel est à l'origine de la pensée, ça me permet de faire un petit commentaire qui prendra juste une minute, et qui revient sur ce point, qui est que ce que je vous ai raconté, et c'est un peu à ce souci que votre question conduit, semble extrêmement réductionniste, de dire que, bon, après tout, les particules, les atomes, les molécules, et puis à la fin, il y a la vie, l'être pensant, comment peut-on parler de ces trucs-là, et puis à la fin, il y a cette magnifique chose qui est la pensée, qui en plus peut regarder d'où on vient. C'est assez extraordinaire que l'évolution ait construit un organisme qui sait réfléchir sur lui-même et se poser la question de savoir qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis là, qu'est-ce que c'est que ces trucs qui m'ont fabriqué. Intéressant de savoir comment ça a pu se faire, le retour sur soi-même. Mais ce que je voudrais montrer, c'est juste donner une idée de la façon dont on pourrait éventuellement concevoir que ça peut se faire sans nécessairement expliquer les étapes. Je prends un exemple extrêmement simple que j'utilise tout le temps, qui est le suivant. Pour montrer comment la complexité peut s'installer et conduire à l'émergence de phénomènes de plus en plus complexes à des niveaux de plus en plus élevés, mais toujours explicables, sur la base de ce qu'il y a de plus simple. Prenez une molécule d'eau, HOH. Une molécule d'eau ne peut ni fondre ni bouillir, ni geler ni bouillir. Ça n'existe pas. Pour une molécule d'eau isolée, elle ne sait pas ce que ça veut dire bouillir. Elle ne sait pas ce que veut dire geler. Ce sont des qualités, des propriétés qui, dans le monde des molécules d'eau isolées, ne peuvent pas exister. Maintenant, vous prenez une bouteille d'eau. Cette bouteille d'eau, vous pouvez la mettre à bouillir, l'eau qu'il y a là-dedans, vous pouvez la faire geler. Pourquoi ? C'est toujours de l'eau. Parce que maintenant, c'est une association. C'est beaucoup de molécules qui s'accrochent, qui s'accrochent les unes aux autres, qui font des objets supramoléculaires. Et il y a une nouvelle propriété qui est apparue, le fait de pouvoir, enfin plusieurs propriétés, pas seulement celle-là, mais entre autres, le fait de pouvoir bouillir, le fait de pouvoir geler. Donc, vous ne pouvez pas réduire ces propriétés à la molécule d'eau, mais entièrement l'expliquer et la déduire. Et je voudrais simplement qu'on essaie de comprendre que expliquer la pensée en termes moléculaires, fonctionnement biologique, n'est pas la réduire à ça. C'est simplement essayer de comprendre comment ça fonctionne et à chaque niveau admettre qu'il y a des qualités différentes qui apparaissent.
Je vous remercie beaucoup de cette réponse. Et je vais vous donner le nom de l'auteur de la citation que j'ai faite, c'est Sigmund Freud lui-même, qui avait eu la prétention, qu'on a beaucoup méconnue, de créer une science de la nature et qui entretenait les meilleurs rapports, non seulement avec les scientifiques, mais était un passionné de Léonard de Vinci.
Très bien, merci beaucoup.
Madame.
Bonjour, monsieur. Pourrais-je me permettre de vous demander ce que vous pensez en tant qu'homme et en tant que chercheur et éminent savant de la dernière décision anglaise à propos du clonage ? Cette question était inévitable, enfin, je trouve.
Oui, oui. Bon, vous savez, dans son principe, moi, je n'ai pas de problèmes moraux avec ça. La seule chose, c'est que je me dis, bon, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Bon, il y a des cas où ça peut être très intéressant. D'abord, des clones, il y en a plein. Tous les vrais jumeaux sont des clones. C'est des clones, les vrais jumeaux. C'est le même œuf divisé en deux. Donc tous les vrais jumeaux sont des clones. En faire artificiellement, après tout, pourquoi est-ce que une des raisons, semble-t-il, pour l'apparition de la reproduction sexuée, c'est que ça mélange les choses, ça fait de la diversité. Ça ne fait justement pas des clones. Les organismes qui se reproduisent par scissiparité, c'est des organismes qui se refont à l'identique. Tandis que ce n'est pas le cas pour les organismes qui se reproduisent par mélange des gènes. Et bon, comme dirait François Jacob, le bricolage, la nature bricole, elle essaye des choses à droite à gauche, elle fait des mélanges de gènes, il y en a qui sont bons, bien, ben on va avec. Si on ne faisait pas ça, ben on ne pourrait pas explorer toute la combinatoire possible, rendue possible par les génomes. Donc, je n'ai pas de problème moral avec la chose en elle-même. Il faut faire attention à la façon dont on utilise. Il y a des dérives, je peux voir plein de dérives. Mais des dérives, il y a dans tout ce que nous faisons. Hein. Quand on me pose ces questions, je dis aussi que la nature nous a dotés de mains. Avec les mains, je peux caresser ou tuer. C'est pas, tant que je n'ai pas utilisé la main pour étrangler, on ne va pas m'accuser d'avoir un objet qui peut étrangler quelqu'un.
Oui, vous avez dit que le tableau Mendeleïev donne tous les éléments atomiques qui constituent tout l'univers. Est-ce que ça veut dire, donc je suppose qu'on n'a pas encore trouvé d'autres éléments atomiques qui ne seraient pas encore dans ce tableau, est-ce que ça veut dire qu'on a la certitude qu'on ne pourra pas en trouver d'autres, parce qu'il y aurait des limites physiques ou chimiques, et qu'éventuellement, on pourrait même imaginer que l'homme ne pourra pas lui-même en créer de nouveaux éléments plus complexes derrière ceux qui existent déjà, qui sont déjà décrits dans ce tableau?
Bon, d'une part, l'homme en a créé, puisque les transuraniens, les éléments artificiels, comme on les appelle, le lawrencium, l'einsteinium, qui est donné dernier temps, il y avait qu'est-ce qu'il y avait encore eu le tout dernier?
Pardon?
Oui, le nobelium, il y avait le nobelium, ben, tout plein. Il y a un certain nombre d'éléments que j'avais sur le tableau, là, qui ont été créés dans des accélérateurs, dont en général, on a quelques atomes, juste, hein. On en a vu quelques-uns, mais il n'y en a pas tellement qui ont pu être isolés en quantité. Ce qui est effectivement quelque chose d'assez sidérant, je dois dire. Et ça me gêne un peu parce que c'est presque un peu dogmatique. C'est que le tableau étant ce qu'il est, actuellement, je dois dire, on ne voit vraiment pas comment on pourrait avoir d'autres éléments naturels. C'est incroyable, ça me gêne, je dois dire. J'aimerais bien en trouver d'autres. Mais tel que le tableau est fait, et telle est la qualité, et si toutes nos idées, et je pense que vraiment il y a très 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 peu de chances que ce soit faux, sur la constitution des atomes telles qu'elles sont, il n'est pas possible de mettre autre chose dans ce tableau. Sauf à la fin, là, mettre quelques artificiels au bout, des très lourds, très lourds, très lourds. Ça, on y arrivera, et puis ça se fabrique continuellement, régulièrement dans les grands accélérateurs. Mais dans le début du tableau, les éléments naturels, il n'y a pas moyen. Et c'est, comme j'ai dit, totalement renversant que tout l'univers, ces milliards d'étoiles, ne puissent être faites que de ça dans notre univers. Il y a peut-être d'autres univers, ça c'est autre chose. Alors là, on va dans la science-fiction.
Voilà, merci.